Semaine Sainte 2024. Semaine Sainte 2024 avec la communauté de la Croix Glorieuse à Toulouse. Table ronde. Nathalie Cardon.
Et oui, bonjour à vous tous qui nous rejoignez en cette journée spéciale qui débute, puisque nous sommes dans ce jeudi saint, ce Triduum Pascal, effectivement, ici, dans cette paroisse de l'Immaculée Conception, sur le diocèse de Toulouse, une paroisse animée par la communauté catholique charismatique de la Croix Glorieuse. Cette église est la première église de Toulouse à avoir été dédiée à l'Immaculée Conception, dogme proclamé en 1854. Elle est dédiée après la création de la paroisse de Bonnefoy, accordée par l'archevêque de Toulouse en 1857. Le premier curé de cette paroisse, Guillaume Ravary, a été chargé de l'édification de l'église paroissiale. Et dans cette église où nous nous trouvons pendant toute cette période du Triduum Pascal, le vénérable Père Marie-Antoine de Lavaur, surnommé le Saint de Toulouse, est venu prêcher dans cette église de l'Immaculée Conception. Je le rappelle, nous nous trouvons dans cette église que vous pouvez d'ailleurs visiter dans ce quartier du Faubourg Bonnefoy, quartier populaire qui se situe près de la gare Matabio. Alors, en ce jeudi saint, merci chers auditeurs d'être fidèles à nos rendez-vous. Se trouve donc en direct à mes côtés Sœur Sabine de la communauté de la Croix Glorieuse. Bonjour Sœur Sabine.
Bonjour.
Alors vous êtes une sœur consacrée, entrée dans cette communauté catholique charismatique en 1997, si je ne me trompe.
Oui, c'est ça.
Oui, et vous nous direz peut-être dans quelques minutes, en introduction, pour découvrir un peu l'histoire de votre communauté et puis les charismes que vous exercez dans cette communauté. À vos côtés, un frère. Bonjour, frère Pierre-Yves Noyer.
Bonjour.
Alors, vous êtes un des curés, puisque sur cette paroisse et dans cette communauté de la Croix Glorieuse, ici, à l'Immaculée Conception, vous êtes trois frères. Et trois prêtres.
Nous sommes trois frères prêtres qui portons de façon solidaire la charge de la paroisse, en effet.
Alors vous êtes entré à la communauté il y a un peu plus de 30 ans.
1993.
Ouais, c'est toute une histoire.
Oh là oui.
C'est une histoire de fidélité.
L'histoire de l'entrée.
Alors l'histoire de l'entrée qui est votre histoire, et puis l'histoire, bien sûr, nous le verrons dans quelques minutes, l'histoire de votre communauté.
Ben, en fait, mon histoire à moi, c'est une histoire où le Seigneur et la Sainte Vierge en particulier ont été particulièrement présents. Le fil rouge de mon histoire, c'est la Sainte Vierge. Et c'est peut-être pas pour rien que je me retrouve ici à l'Immaculée Conception. En fait, je travaillais comme ingénieur ici à Toulouse. Et après avoir été bien travaillé dans mon cœur par le Seigneur, pour que je sois capable d'entendre son appel. C'est ici, dans cette paroisse, en fait, en 1992, que j'ai entendu l'appel du Seigneur à lui consacrer ma vie, et puis que ma vie elle-même a été complètement transformée par la découverte de son amour incroyable pour moi. Et donc après, je suis rentré dans la communauté, et puis j'ai fait mon chemin, et puis depuis 2010, je suis de nouveau ici, comme curé, et c'est assez touchant pour moi.
Donc 30 ans après, c'est toute une histoire autour, voilà. Au fond, de l'Immaculée Conception.
Tout à fait.
Une oui. Histoire de vie. Alors pour vous, ça s'est passé comment, la rencontre, l'appel dans cette communauté, qui a une histoire, et nous allons après rentrer un peu dans les grandes lignes de l'histoire de la communauté de la Croix Glorieuse. Sœur Sabine.
Alors le Seigneur nous guide toujours par des chemins mystérieux. Moi, je suis rentrée à 37 ans, donc j'avais déjà un âge vénérable. Je travaillais comme orthophoniste, mais c'est vrai que j'avais un appel à la vie religieuse, mais un appel qui était un peu compliqué parce que c'était à la fois un appel monastique et à la fois un appel à la mission. Et je cheminais dans ce cadre-là. Et puis, par les chemins oui, mystérieux du Seigneur, j'étais dans la paroisse voisine. Un jour, je suis venue au Lot d'ici, et c'était tellement beau que j'ai senti que j'étais directement au paradis, pratiquement. Non, j'ai été touchée par la beauté de la liturgie, puis après j'ai fait mon chemin et j'ai vu que le Seigneur m'appelait ici parce que justement c'est une communauté à la fois contemplative et à la fois très ouverte à la mission et à l'évangélisation.
Alors merci un peu pour ces petits bouts d'histoire. Donc un ingénieur, une orthophoniste et aujourd'hui un prêtre et une consacrée ici dans cette paroisse qui est en mission effectivement dans ce quartier populaire du Faubourg Bonnefoy. Alors quelle est un peu l'histoire de votre communauté, frère Pierre-Yves ? Communauté, je précise à nouveau pour ceux qui vous découvrent peut-être dans cette période particulière du Triduum Pascal. Pascal, sur nos radios chrétiennes, quelle est l'histoire, les grandes lignes de votre communauté ?
Alors, nous sommes une toute petite communauté, en effet, avec deux implantations aujourd'hui, une à Perpignan et une ici à Toulouse, et peu connue ailleurs en France. Le début de la communauté, ça a été notre fondateur qui était sulpicien, qui a enseigné à Rueil-Malmaison, oui. Non, c'est pas Rueil-Malmaison. C'était au séminaire de Saint-Sulpice. Voilà,
on est en direct. Hein,
oui, on est en direct.
C'est, ben voilà. C'est un direct, voilà, c'est les joies du direct.
Et oui. Il a vécu l'effusion de l'Esprit-Saint lors d'une session à Paray-le-Monial. Et sa vie a été complètement transformée. Et puis s'est réveillé en lui un appel qui était présent en lui depuis longtemps à une vie plus consacrée, une vie plus monastique. Et puis en même temps quelque chose qui soit donné à la mission, un peu comme disait sœur Sabine juste à l'instant. Et puis autour de lui, il y avait d'autres, des hommes, des prêtres et des non-prêtres qui avaient aussi une aspiration à quelque chose. Ils ont pendant un temps pensé qu'ils allaient se joindre à des communautés existantes. Il y a eu deux essais comme ça, et jusqu'à ce qu'ils comprennent, grâce à un père abbé à Saint-Benoît-sur-Loire qui était plein de sagesse, qui les a écoutés, qui les a guidés et qui leur a dit « mais soyez vous-même ». Et donc ils ont compris qu'il fallait qu'ils fondent quelque chose de nouveau. Alors ils se sont réunis, alors c'était en 1981, le 15 août 1981, au chevet de la basilique de Vézelay. Et là, ils ont réfléchi, ils ont prié ensemble pour essayer de définir quelle serait cette nouveauté à laquelle le Seigneur les appellerait. Et ils ont compris que c'était une vie à la fois contemplative, monastique, disait-il à l'époque, et puis en même temps apostolique, et puis qui devait être au service du renouveau de la vie paroissiale. Ça, c'est quelque chose qui leur tenait à cœur dès le départ. Et qui est un peu spécifique de notre communauté, ça fait partie de nos gènes.
De l'ADN.
De l'ADN.
Oui, voilà. On prépare un peu cette émission du jour. C'est vraiment l'ADN et le cœur un peu et le poumon de la communauté, la Croix Glorieuse, la mission paroissiale, tout en étant dans une vie contemplative, une vie profondément vécue dans la prière avec cette belle liturgie que nous découvrons aujourd'hui sur les ondes de notre radio. Sœur Sabine ?
Juste une petite précision, par rapport à monastique, effectivement on était engagé dans cette voie-là, mais la communauté a évolué. Maintenant, on ne peut pas parler d'une vie purement contemplative, mais où tous les temps d'oraison, que ce soit personnel ou ensemble, où le travail de tout ce qui est la Lectio Divina a une importance primordiale dans notre vie. C'est quand même l'enracinement qui permet qu'on puisse se donner à la mission.
Et quelle est l'originalité au fond de votre communauté, hein, Pierre-Yves ? S'il fallait parler d'originalité.
Oui. Alors je pense que c'est le...
Vous vivez aussi en différents états de vie.
Oui, hein, c'est ça.
On va y venir.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'était porté par le père Hubert-Marie Chelmandrier et puis tous ses premiers qui étaient autour de lui. C'était porté dès le départ de vivre une vie communautaire qui associe des frères consacrés, des sœurs consacrées et puis aussi des laïcs. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, on ne conçoit pas on ne concevrait pas une fondation de la communauté avec simplement des frères ou simplement des sœurs. On a besoin de cette complémentarité de frères, sœurs, laïcs pour vivre au quotidien et la richesse de notre vocation.
Comment on vit tout ça sous un même toit ? Comment s'organise la communauté avec ses différents états de vie ? Sœur Sabine, je vous vois sourire d'ailleurs.
Non, bien évidemment, on n'est pas tous sous le même toit.
Expliquez-nous.
Parce que, voilà, les familles, les laïcs ont leur propre vie et leur engagement premier, leur devoir d'état, de toute façon, c'est le sacrement du mariage. Ou leur engagement propre en tant que laïc.
Le baptême qui est notre consécration commune.
Ce que j'allais dire, effectivement. Donc, à partir de là, Nous vivons frères et sœurs consacrés dans le bâtiment, dans le même bâtiment, avec bien sûr des locaux qui sont différenciés au niveau de tout ce qui est les chambres.
Une clôture.
Une clôture, voilà. Le terme adéquat et idoine est clôture. Mais sinon, on partage tous les espaces et de vie et de lieu et de travail en complémentarité, que ça soit frère, sœur ou laïque.
Alors, bien sûr, dans l'histoire de la communauté qui a aujourd'hui, au fond, vous avez donné une date, frère Pierre-Yves, de 1981, après 40 ans d'existence de votre petite communauté, puisque vous avez parlé de petite communauté, si vous deviez faire un bilan de ces 40 ans de vie avec ses joies et ses peines, j'imagine que vous avez aussi vous-même, votre communauté, traversé des temps de crise, des temps d'épreuves, sans définir et creuser les épreuves de votre communauté, mais vous avez eu des moments compliqués.
Oui, alors ouais. Il y a eu d'abord un premier temps de déploiement de la communauté. En 1983, l'évêque de Perpignan a accueilli la communauté et lui a confié ce qu'elle portait au cœur, c'est-à-dire une paroisse, un secteur paroissial. Et puis, dans cette paroisse qui était quasiment mourante, eh ben, la communauté a pu se planter ses racines, se grandir, se déployer, se poser, se fonder en fait. Et puis on a eu quelques fondations, une autre fondation dans le diocèse de Perpignan, une autre ici à Toulouse, c'était en 92, et puis d'autres fondations ailleurs. Et puis ensuite, eh ben, il y a eu ce qu'on appelle la crise de croissance. Voilà, c'est-à-dire une crise qui est liée à des difficultés de gouvernement, de pouvoir, et qui a été très forte parce qu'on était encore une petite communauté, donc l'impact a été très fort. Et heureusement, nous avons été très bien accompagnés par l'Église, de façon très maternelle. L'Église qui nous a accompagnés de façon très maternelle, très miséricordieuse, et très bienveillante aussi, et ça je rends grâce à Dieu pour ça. Et ça nous a permis d'enclencher à partir de 2002 un véritable travail de réécriture de tous nos textes, de refondation, de revisitation de nos fondements et de reconstruction. Et donc c'est un travail dans lequel nous sommes encore, même s'il est bien avancé, mais depuis bientôt 22 ans... année après année, nous posons des pierres, nous construisons et je crois que la communauté se porte beaucoup mieux maintenant.
Donc on entend que le tournant de votre communauté, reconstruction, revisitation, c'est une communauté qui, au fond, retrouve un souffle nouveau en 2002. Et vous précisez avec cette...
À partir de 2002. C'est ouais. Le moment où c'est difficile.
Ah oui.
Et 2024, nous sommes beaucoup mieux qu'en 2002, oui.
Ah oui, donc il y a une véritable résurrection oui. De l'ensemble de la communauté grâce, et vous l'avez précisé, à une bienveillance oui. Et un accompagnement finalement maternel et paternel de l'Église elle-même. C'est important oui. Ce que vous soulignez.
Bien sûr, on a oui. une visite apostolique, et puis je pense en particulier au père Bernard Hugeux, père blanc, à qui je rends hommage.
Oui, que beaucoup connaissent aussi.
Oui, voilà, et qui a été très précieux dans ces années difficiles pour nous aider à continuer à vivre et puis à regarder de l'avant. Et vraiment, il a été très précieux.
Et l'avant, il est plutôt beau hein, pour oui, votre communauté sûr. Et puis votre paroisse ici même. Dimanche, d'ailleurs, on pourra aussi vous retrouver, frère Pierre-Yves, dimanche matin, à partir de 10h avec Muriel Sandrin pour une émission spéciale sur le thème de paroisse en croissance, car... cette église ici, l'Immaculée Conception, avec votre communauté et tous les membres de la communauté, vous avez mis en route ce vrai chantier de, oui. En 2015, d'une paroisse qui se relève dynamique dans la mission.
Oui, 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 tout à fait. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de ce que nous vivons dans la paroisse. Et c'est bien sûr, il y a quelque chose de la communauté qui passe dans la paroisse, mais en même temps, ça fait partie aussi de nos gènes, de notre ADN, c'est de mettre en route des paroissiens pour qu'eux-mêmes prennent en charge leur paroisse et puis donnent toute la dynamique et la vitalité dont ils sont porteurs au alors, service de la paroisse.
Alors cette émission aura lieu en dimanche. Direct dimanche, donc jour de Pâques, hein, de 10h à 10h30 pour préparer aussi, hein, c'est une couleur aussi importante de votre mission, et préparer donc cette messe de Pâques en direct, bien sûr, sur les ondes de notre radio. Vous souhaitiez rajouter,
oui, juste Sabine. Pour rebondir sur ce que dit le frère Pierre-Yves, effectivement, on a pu expérimenter combien l'Église a été mater et magistrat pour nous, hein, à la fois mère, mais aussi éducatrice. Et dans ce qui nous a été demandé, notamment pour rebondir et avancer en Église, parce que c'est important pour nous d'être vraiment en Église, il nous a été demandé de nous rattacher à une spiritualité particulière. Et donc, après un travail communautaire, on s'est rattaché à Saint-Augustin.
Voilà, Saint-Augustin, effectivement. Je me rappelle, dans ces années un peu difficiles, on a un frère dominicain qui est venu nous présenter différents courants spirituels qui existent dans l'Église pour voir, parce que ça nous était demandé, dans lequel nous vibrerions davantage. Alors, on a écouté le courant ignatien, le courant carmélitain et tout. Et quand on nous a parlé de Saint-Augustin, on s'est tous mis en résonance. Et donc ça a été une évidence pour nous que c'était ce courant augustinien qui était notre source intérieure.
Alors je passe une petite info pour les auditeurs qui écoutent en direct dans ce jeudi saint qui débute chez vous, donc à Toulouse, dans ce quartier populaire près de la gare Matabiau, et puis ici à l'église de l'Immaculée Conception, que demain se tiendra donc en direct à la même heure une table ronde consacrée justement à cette spiritualité augustinienne que vous vivez dans votre communauté. Frère Pierre-Yves Noyer, Sœur Sabine, je vous propose de vous retrouver dans quelques minutes, le temps d'une respiration, voilà, d'une pause musicale. Et on continue, bien sûr, sur les charismes peut-être propres dans cette originalité, cet appel particulier de vie contemplative et de vie missionnaire en paroisse. À tout de suite. Nous sommes en direct pour ce Triduum Pascal depuis cette église dédiée, c'est dédié à l'Immaculée Conception, et je crois bien, vous allez me confirmer, puisque mes deux invités sont toujours ici en plateau, Sœur Sabine et Frère Pierre-Yves, cette paroisse dans laquelle nous nous trouvons, où votre communauté de la Croix Glorieuse a été appelée en mission, c'est la première paroisse qui a reçu le vocable dédié à l'Immaculée Conception.
Alors, là, je vais vous décevoir. Parce
vous allez me décevoir.
C'est ce que j'ai cru pendant longtemps.
Ah bon, et c'est une erreur.
J'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, dans un livre d'histoire, qui a une paroisse Immaculée Conception à Lyon, qui a été fondée avant celle-ci à Toulouse. Déçue. Mais on n'est pas, on n'est pas jaloux.
Bon, vous n'êtes pas jaloux. Alors, cette paroisse Immaculée Conception tenue par la Croix Glorieuse, votre communauté s'identifie avec un nom particulier, Croix Glorieuse. Alors, comment avez-vous reçu ou choisi ce nom pour votre communauté, Sœur Sabine?
Quel vocable fantastique! Quand j'ai pensé entrer dans la communauté, je trouvais cette expression tellement désuète, la Croix Glorieuse, avec toutes les associations qu'on peut faire de trompettes. De... Et puis, en fait, petit à petit, j'ai pu pénétrer la profondeur de ce mystère qui est de toute façon le mystère pascal, mais avec ce mot de gloire et de glorieux qui traverse la mort, en fait. Et ça consonne vraiment avec un de nos enracinements, un de nos, qui fait partie de notre charisme comme spécificité de cette espérance de la vie qui est toujours plus forte que la mort. Donc là, maintenant, je peux vous rassurer, je suis fière d'être une sœur de la communauté de la Croix Glorieuse parce que c'est un immense mystère.
Oui, tout à fait. Et c'est le mystère que nous contemplons sans cesse et dont nous parlons sans cesse parce que c'est celui de l'amour qui se livre jusqu'au bout et dont la gloire, c'est justement d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. On va en reparler ce soir pendant la messe de la Seine. Et qui est victorieux. C'est-à-dire que cet amour qui se livre jusque dans la mort, il est victorieux de la mort et par la résurrection de Jésus, eh bien, il nous entraîne tous, il nous arrache tous aux ténèbres, à l'enfer, à la mort et il nous sauve. Et c'est là la gloire de Dieu. C'est pas de jouer au super-héros d'Hollywood, c'est de manifester tellement son amour qu'il se donne jusqu'au bout et qu'il nous sauve et qu'il nous transforme. Et c'est ça sa gloire en fait. Hein.
Et on est en plein dans ce mystère,
exactement.
Dans ce Triduum Pascal, donc chez vous, avec cette vocation bien spécifique. Et on a bien entendu Sœur Sabine, donc c'est votre témoignage aussi de sœur consacrée depuis près de 25 ans dans cette fidélité, votre fierté d'appartenir à cette Croix Glorieuse.
Oui, alors fierté d'une manière tout à fait humble, mais ce que je vois, c'est que le Seigneur travaille dans ce vocable aussi, au travers de tout ce qui est la compassion et comment elle peut se décliner et pour la communauté et en paroisse, au travers des différents apostolats que nous pouvons vivre.
Oui, et puis, oui, frère Pierre.
Oui, ce qui est tout à fait étonnant, en fait, c'est que les premiers frères de la communauté devaient se retrouver pour commencer leur vie communautaire le 8 septembre 1981 parce qu'ils trouvaient que le mystère de la naissance de la Vierge Marie, oui, c'était bien. Et puis c'était pas possible, il y a eu un imprévu et ils se sont retrouvés le 14 septembre 1981, fête de la Croix Glorieuse. Et après coup, ça a pris une dimension extraordinaire parce que la Croix Glorieuse, c'est le résumé de tout le mystère pascal, c'est-à-dire de tout cet amour qui se livre à partir du Jeudi Saint et qui transforme le monde jusqu'à la Pentecôte. Donc du Jeudi Saint jusqu'à la Pentecôte, c'est le résumé de tout ça. Et donc ça a pris un sens étonnamment, assez extraordinaire parce qu'en paroisse, la consécration qui nous est commune et ce qui fait vivre la paroisse, c'est le baptême. Or, le baptême, c'est le fruit direct du mystère pascal. Oui, oui. Et donc, la Croix Glorieuse, le baptême en paroisse, c'est plein de cohérence.
Donc, on entend bien, oui, votre joie d'avoir un jour dit oui, membre de l'Église et puis membre de cette communauté bien, bien présente sur ce diocèse de Toulouse. Hein. Votre communauté a une vraie et belle mission. Alors, on parle un peu de l'histoire de la communauté et puis on peut vous retrouver aussi sur le site internet pour les auditeurs qui vous écoutent en ce Triduum Pascal et en ce Jeudi Saint qui ne vous connaissent peut-être pas encore. On trouve toutes les informations, toutes les missions. Alors en ce qui concerne les charismes propres à votre communauté, comment vous pouvez aborder un peu ce sujet des charismes de la communauté? C'est les missions diverses, frère Pierre, sœur Sabine?
Alors nous sommes une communauté charismatique, donc c'est une dimension qui est importante chez nous. L'Esprit Saint a toute sa place. Et donc au niveau des apostolats ou aussi au niveau de la façon dont on reçoit notre mission, notre vie communautaire, nos relations en paroisse, l'Esprit Saint est quand même déterminant et on se tourne toujours vers lui. Et donc on a plusieurs propositions.
Sachant que la vie charismatique, ce n'est pas simplement l'exercice des charismes. Notre communauté est née dans ce courant de grâce, comme l'appelle le pape François, du renouveau charismatique, donc de l'exercice des charismes que l'Esprit Saint donne à l'Église, dont il équipe l'Église pour la mission. Ça, c'est l'exercice des charismes. Et effectivement, on a des soirées de louanges, des prières pour la guérison des malades. Et on a vu des malades être mieux parce que le Seigneur agit, parce qu'il continue à être vivant et il continue à guérir. Des choses comme ça. Donc, on exerce des charismes. Mais la vie dans l'esprit, c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est une dimension que nous essayons de cultiver un peu au quotidien et dans la, justement parce que nous sommes en paroisse, dans la vie quotidienne du chrétien. Comment est-ce que je suis à l'écoute du Saint-Esprit dans ma vie au quotidien, dans mon travail, dans ma relation avec mes proches, dans ma famille? Comment est-ce que je grandis dans le Saint-Esprit? Il y a toute cette dimension-là aussi.
Alors, il y a trois grands piliers dans votre communauté. La liturgie charismatique, bien sûr, la dimension charismatique et la fraternité. Alors, sur la liturgie, je pense que vous avez aussi un petit témoignage que je connais, puisque nous avons préparé un peu ce temps d'émission pour ce jeudi saint.
Là, vous faites allusion au, quand je suis venue.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ça a été d'ailleurs
un peu tout à l'heure. Oui. Mais c'est vrai que pour nous, c'est important d'avoir une liturgie qui est belle, parce qu'elle dit quelque chose du royaume de Dieu, et elle dit aussi quelque chose du mystère de la personne qui est belle, parce qu'elle a été créée par un Dieu d'amour. Et la liturgie, on y a aussi notre vie fraternelle. Ce qui est important pour nous, et un avantage du fait qu'on est en complémentarité d'état de vie, c'est que tout bêtement, on peut avoir quatre voix pour chanter au chœur, et que donc la polyphonie aide à la beauté de la liturgie.
Tout à fait. Et de mon côté, ce qui m'a vraiment émerveillé quand je suis rentré dans la communauté, pendant plusieurs années, j'avais l'impression d'être dans une caverne d'Ali Baba liturgique, si vous voulez, sachant que la source de la lumière, c'est le Triduum pascal, c'est la vigile pascale que nous allons vivre très, très bientôt. Et puis après, cette source qui est inépuisable de vie, d'amour, de renouvellement, se décline dans toute l'année liturgique. Et c'est ça que j'ai découvert en rentrant dans la communauté. C'est cette richesse de la liturgie qui est donnée par l'Église catholique et que nous pouvons vivre jour après jour, semaine après semaine, en paroisse. Et c'est ça qui est merveilleux, vraiment.
Alors, vous soignez particulièrement cette liturgie, vous soignez particulièrement les chants, les auditeurs qui vous découvrent et qui découvrent votre communauté de la Croix Glorieuse. En ce temps du Triduum pascal, on entend.
Alors, il y a les chants.
Oui.
Évidemment, ça passe mieux à la radio que la décoration de l'église.
Mais il y a la décoration, oui, dans l'espace aussi de beauté. Il voilà. y a prendre soin aussi de la mise en beauté d'une église.
Et puis il y a la gestuelle, et puis il y a l'harmonie de la célébration liturgique.
En fait, il y a quelque chose d'important dans votre communauté, quelque chose de la création. Vous êtes des artistes aussi. Est-ce qu'on peut dire que parmi Dieu est l'artiste, le grand,
Dieu est l'artiste suprême.
Le suprême, mais vous êtes sensible, votre communauté est sensible donc à la beauté et à la création.
Mais qui n'est pas sensible à la beauté, franchement? On est tous sensibles à la beauté parce que la beauté, c'est le rayonnement de l'amour. Et Dieu est amour, donc Dieu aime ce qui est beau et Dieu fait du beau, n'est-ce pas?
Et dans votre paroisse, dans votre église, vous prenez soin aussi de cette beauté jusqu'à la décoration, dans les grands temps liturgiques.
Tout à fait, comme l'a dit Pierre-Yves, on insiste pour que tous les sens soient honorés, que la liturgie nous parle de Dieu par tous les sens. Et j'allais dire paradoxalement, mais ce n'est pas le bon terme, conjointement, on a à cœur d'avoir de très belles liturgies où tous les sens sont honorés, où il y a de l'encens, où ça brille, où les gens entendent de beaux chants. Mais en même temps, c'est toujours allié chez nous avec un des piliers de notre vie et communautaire et paroissiale, qui est cette vie fraternelle associée à une certaine simplicité de vie.
Donc, qu'est-ce que vous entendez par vie fraternelle, mais simplicité de vie?
Alors,
Ça veut dire tout simplement que nous vivons en paroisse une vie de famille élargie. avec des relations qui sont
donc
simples.
Vous êtes une grande famille, au-delà de la famille de la communauté de la Croix Glorieuse, c'est la famille s'élargit avec toute l'activité extérieure des paroissiens, c'est ça ?
Tout à fait, avec la présence des paroissiens, et peut-être on en reparlera justement
mais
dimanche.
Oui, mais oui, dimanche, ne manquez pas, chers auditeurs, qui nous écoutez, le rendez-vous est dimanche en direct de 10h à 10h30.
On aime bien parler de cette paroisse de l'Immaculée Conception comme de la famille Immaculée Conception, où chacun a sa place. De façon simple, alors on ne s'aime pas comme ça de façon naturelle. On apprend aussi à se pardonner, on apprend à se supporter, on apprend à s'encourager, on apprend à s'émerveiller des dons de l'autre, etc. Et ça, c'est une vie de famille.
La dimension de l'accueil, par exemple, est très importante chez nous. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort quand les gens parlent de la paroisse, la façon dont ils sont accueillis avec ceux qui sont. Comme ils sont,
oui,
comme
vous êtes. Comme vous prenez soin, d'ailleurs, c'est important que vous notiez aussi, vous avez une culture de l'accueil que vous avez au fond travaillé. Est-ce qu'on peut parler aussi d'un travail spécifique à l'accueil ?
C'est un vrai travail intentionnel et sur plusieurs années pour développer non seulement un accueil qui soit sympa, mais une culture d'accueil. Mais là aussi, peut-être on en reparlera dimanche.
Et cette culture de l'accueil, ce n'est pas simplement au moment où les gens rentrent, c'est aussi tout un suivi des personnes afin qu'elles puissent trouver leur place propre et leur place où qu'elle est, dans un service particulièrement, dans ce qu'elles peuvent donner, parce que ça fait partie de la croissance des personnes.
Dans ce qu'elles portent, effectivement.
Quels sont un peu les profils des paroissiens, de ceux qui, un jour, sont sur le parvis de l'église de bonne foi, l'Immaculée, et finalement font le pas d'entrer dans cette église et découvrent au fond votre communauté, Sœur Sabine.
C'est très varié, c'est justement une des richesses de notre paroisse, il y a toutes les conditions sociales. Moi, je suis assez émerveillée par la présence des familles avec des tout-petits, parce que ça montre qu'ils se sentent accueillis dans les offices et autres. Mais par exemple, on a ouvert un atelier danse hip-hop pour toute une catégorie de personnes qui sont pas forcément en marge de l'église, mais sur les abords de l'église. Et c'est un lieu où on peut se rencontrer, faire un chemin croyant et non-croyant ensemble autour d'une passion qui s'appelle la danse hip-hop. Ils vont d'ailleurs faire la sortie de la messe de Pâques. Et ils vont entraîner toute l'assemblée. Bon, ça, c'est une des caractéristiques. Mais on en a beaucoup d'autres. Le but, c'est que chacun trouve sa place. Et là où le Seigneur l'appelle, dans ce qu'il peut donner et dans ce qu'on a à lui donner aussi.
Voilà. Et donc, une des choses qui m'émerveille, moi, c'est cette mixité culturelle et sociale. Il y a des noirs, des gens, des jaunes, des bleus, des verts. Il y a toutes les
couleurs. En fait, vous êtes aussi dans cette diversité, cette périphérie dont parle.
Ben oui, mais on est dans un faubourg.
Ben oui, vous êtes dans un faubourg, pas très loin de la gare Matabiau.
Voilà, et là, il y a un gros croisement du monde entier.
De population.
En fait. Voilà, c'est ça.
Vous êtes un petit Lourdes aussi, hein, on a oublié, mais dans l'histoire de la communauté, puis l'histoire du Faubourg Bonnefoy et de cette église de l'Immaculée Conception. Alors ceux qui ne peuvent pas se déplacer au sanctuaire de Lourdes, on peut se déplacer ici, dans ce faubourg, et trouver un petit Lourdes.
Il y a une reconstitution de la grotte de
Lourdes. Vous pouvez décrire un peu cette histoire,
oui,
alors, cette grotte,
hein. Ouais. Simplement, comme la paroisse a été fondée l'année des apparitions à Lourdes, le fondateur a voulu marquer ce lien avec Lourdes de façon très forte. Et donc, dès le départ, il y a une reconstitution de la grotte de Lourdes qui a été restaurée par la suite et qui se trouve dans le jardin du presbytère, qui est ouvert à tous, tous les jours. Et c'est un petit havre de paix. Il y a cette grotte, mais il y a le jardin, il y a les oiseaux, on n'entend pas de bruit. Et puis, il y a la présence de Marie.
Et c'est étonnant. Hein, moi, j'invite les auditeurs qui ne connaissent pas à venir se recueillir au cœur d'un faubourg Bonnefoy qui peut être bruyant. Mais
rejoint peut-être quelque chose qui est dans notre ADN, à nous, communauté de la Croix Glorieuse, parce que la dimension mariale est très importante pour nous. Si nous sommes habillés en bleu, les auditeurs ne le voient pas,
mais
je le dis.
Oui, c'est vrai, la tenue, c'est la tenue de service de votre communauté.
C'est à cause de ça, le bleu marial. Et nous disons tous les matins, que ce soit individuellement ou ensemble quand on se retrouve, une prière d'alliance avec la Vierge Marie, qui nous aide à vivre le mystère de la Croix Glorieuse, qui nous aide à être à l'écoute du Saint-Esprit, qui nous aide dans notre mission. Et cette alliance avec la Vierge Marie est vraiment très importante pour nous.
Alors, on entend bien, oui.
Et juste pour revenir sur cette grâce, ce privilège d'avoir un grand jardin, comme le disait frère Pierre-Yves, qui est un havre de paix, c'est que beaucoup de personnes croyantes ou non, justement ce que vous appelez les périphéries, viennent tout simplement pour s'y poser. Et c'est aussi à l'abri du regard de Marie, parce que je pense qu'elle aime qu'on vienne la voir. eh bien, une façon de pouvoir échanger avec des personnes. On a aussi les poissons rouges qui sont très attractifs pour les familles.
Alors, c'est le petit gave, dirons-nous.
C'est le petit gave. Et il est conçu pour ça, ce petit canalet, hein, pour représenter le gave. Et ça permet vraiment des échanges à tous les niveaux.
Et ce jardin, je raconte une petite anecdote qui me touche beaucoup, parce que dans notre vocation, il y a aussi cette dimension missionnaire. Nous avons à cœur de rejoindre avec bienveillance et sans jugement n'importe qui, où qu'il en soit, pour témoigner de l'amour extraordinaire de Dieu pour lui, pour nous, pour tous, pour chacun. Et donc, pendant les périodes de confinement, par exemple, vous vous souvenez, dans l'année glorieuse 2020, où on était chacun dans sa maison, dans son appartement, où les jardins publics étaient fermés, où il n'y avait pas de verdure en ville, nous avons fait le choix, parce que c'est un jardin privé, d'ouvrir le jardin. Et tous ceux qui étaient dans un rayon donc d'un kilomètre avaient la possibilité, avec quelques règles qui encadraient la chose évidemment, de pouvoir venir se ressourcer dans ce lieu-là. Et moi, ça reste un beau souvenir parce qu'il y a des personnes qu'on ne voit jamais à l'église, mais qui sont venues dans ce jardin et puis qui ont trouvé ce lieu de ressourcement, d'oxygénation, de paix dans un moment où tout le monde était très tendu. Et pour moi, ça dit quelque chose de l'esprit de la mission dans lequel on veut vivre, dans un accueil bienveillant, et puis où chacun fait son chemin comme il le veut, mais où cet accueil bienveillant témoigne de l'amour de Dieu.
Alors, vous insistez, vous y revenez aussi. Au fond, c'est l'un. Ça devrait être le charisme de toutes les paroisses, de tous les chrétiens en marche. Et puis, dans la mission, vous avez insisté énormément sur l'accueil. L'accueil est le début de la rencontre et parfois le début certainement d'un accompagnement et d'un cheminement en vue parfois du baptême ou d'une réconciliation avec les membres de l'Église.
Les personnes, Sabine, à partir du moment où elles se sentent accueillies, où un espace est ouvert, où elles se sentent reconnues aussi
et dans ce qu'elles sont. Écoutez, dimension d'écoute.
Voilà, on fait beaucoup d'accompagnement.
Et vous en faites, vous oui, c'est un peu votre mission, sœur Sabine.
Oui, c'est un ministère que je développe
particulièrement. Ministère.
Ouais. Oui, c'est un ministère.
Voilà. Oui, je fais beaucoup d'accompagnement. Mais pour rebondir sur ce que disait Pierre-Yves sur ce jardin a aussi permis à des personnes de s'engager dans un chemin qui les a menés à l'Église. Alors, pas tous, parce que comme dit le frère, on n'est pas du tout prosélyte. Le but, c'est pas de convertir à coups de marteau, mais de témoigner. Et on doit dire que ces témoignages gratuits, ils ont amené des gens à cheminer, particulièrement beaucoup de gens se présenter au baptême, par exemple.
Oui, et puis vous parliez de l'accueil, mais Jésus était accueillant à tous de façon inconditionnelle, sans condition. Donc ça, c'est quelque chose que nous essayons de développer pour que personne ne se sente jugé, que tout le monde se sente accueilli, où qu'il en soit, quelle que soit sa vie, ou quelles que soient ses croyances. Et à partir de là, mais Jésus, lui, il fait son travail dans les cœurs.
Donc, on entend un accueil inconditionnel et qui ne juge pas.
Non, bien sûr. Sinon, il y a des conditions.
Et après, effectivement, il faut suivre la personne. Il ne suffit pas de dire « Youpi, bonjour, tu es là et on t'aime ». C'est aussi d'accompagner les personnes, de faire tout un suivi. Donc, on a des tas de propositions de formation, d'accompagnement individuel, d'accompagnement en petit groupe. Il y a des tas de choses qui sont proposées pour le suivi des personnes.
Voilà, mais ça aussi, c'est des propositions qu'on met en œuvre petit à petit dans la paroisse. Le but étant de mettre les gens en contact avec le Dieu qui sauve, mais ce contact qui donne une vie nouvelle, c'est le baptême, la nouvelle naissance, la vie nouvelle, mais il s'agit ensuite d'accompagner les personnes parce qu'on ne met pas au monde des enfants et puis on les abandonne ensuite. Et on les accompagne dans leur croissance jusqu'à ce qu'ils soient autonomes et puis adultes dans la foi et qu'ils puissent eux-mêmes rayonner de l'amour de Dieu.
Alors ça va bientôt être malheureusement la fin de cette table ronde en ce jeudi saint. Donc j'invite les auditeurs à rester à l'écoute de nos programmes de la radio puisque vous avez une liturgie et qui va aussi nous accompagner pour vivre ce passage de la mort à la résurrection du Christ. Alors très vite, vous donnez et vous avez un rendez-vous dans cette paroisse avec un rendez-vous une fois par mois pour la prière des de guérison des malades. Voilà. Jésus guérit les malades, Jésus soigne les malades, les cœurs blessés, les corps malades.
Jésus a toujours guéri les malades parce que son cœur était rempli de compassion. Il est vivant, il continue de guérir, nous le croyons et nous le vérifions.
Sœur Sabine.
Oui, je confirme tout à fait ce que dit frère Pierre-Yves. On est dans un monde qui est malade, qui est blessé. Et vraiment, cette expression du charisme de guérison est importante actuellement. Et ça fait partie de l'accompagnement des personnes et de l'accueil des personnes. Donc nous l'exerçons, c'est pas nous qui pratiquons, c'est l'Esprit-Saint qui passe par où il peut passer. Sommes pauvres.
Et il passe aussi dans la louange, puisque dans votre église et la communauté, vous vous organisez, je crois, tous les samedis soirs, c'est une prière de louange, frère Pierre-Yves, et c'est ainsi que nous terminons cette table ronde où nous avons un peu, quelque peu, rencontré votre communauté avec ses grands moments, son histoire, ses charismes aussi, et puis ces nombreux rendez-vous que l'on va suivre. On va pouvoir vous découvrir jusqu'au matin de Pâques, un jour de la résurrection.
Oui, ces offices de louange ont lieu une fois par mois à des rythmes irréguliers. Alors, il faut regarder sur le site de la paroisse pour
donc
savoir.
Là aussi, vous louez en tout temps.
Oui, mais la louange, elle dépasse.
Nous vous remercions. Nous vous remercions, sœur Sabine, membre de la communauté de la Croix Glorieuse, et vous, frère Pierre-Yves, un des curés. Merci à vous.
Merci à vous.
Et puis, bon trium pascal à vous tous, auditeurs de la radio. Au revoir.